Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, un Indien dans la ville, la visite de Raoni à Paris. Il y a 30 ans, le 12 avril 89, les Français découvrent pour la première fois, en direct à la télé, le visage d'un homme semblant surgir d'un autre siècle. Coiffé de sa parure de plumes jaunes, maquillé de ses peintures de chef de guerre, et arborant fièrement son labréron traditionnel en bois qui lui distend la lèvre inférieure, voici le cacique Raoni, chef des Kayapos, une tribu amérindienne. Face à la caméra, cet homme dénonce le péril qui plane sur son peuple, les menaces qui assaillent les tribus indiennes du Brésil et enfin le danger qui guette l'humanité tout entière. Première étape d'un tour du monde de 60 jours qui va le conduire dans 17 pays, le voyage de Raoni à Paris au printemps 89 est considéré aujourd'hui encore comme le moment fondateur d'une prise de conscience planétaire pour la biodiversité et la sauvegarde de l'Amazonie. Aujourd'hui, soit 30 ans après, le même homme lance un nouvel appel à l'aide. Il espère remobiliser la planète pour la défense de l'Amazonie. Mais aujourd'hui, il a un ennemi déclaré, Jair Bolsonaro, le président brésilien. L'enjeu est énorme, il y va de la survie de notre planète. Notre invité aujourd'hui, Valérie Cabanès, juriste en droit international, très impliquée dans la défense des peuples autochtones et dans la reconnaissance des droits de la nature. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Il y a des peuples aujourd'hui en voie de disparition.
Tous les peuples que nous appelons primitifs sont en voie de disparition. Je pense qu'il faut faire là des distinctions entre, par exemple, ces grandes sociétés africaines qui sont en train de faire leur transition vers des formes de vie modernes. Ceux-là s'en tireront vraisemblablement. Mais si nous comparons alors ces petites populations du Brésil central ou de la Nouvelle-Guinée, ou d'autres régions d'Océanie ou d'Amérique du Nord avant la grande extermination des Indiens américains, ben, ceux-là disparaissent, ils disparaissent à toute allure. Et en ce moment même, on est en train de percer au Brésil une route dite la route transamazonienne et qui sonne certainement le glas des dernières populations que j'ai connues dans un état de plus ou moins grande liberté.
À l'automne 1971, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss témoigne au micro de Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie sur France Inter de son inquiétude pour l'avenir des sociétés primitives en Amérique du Sud. De retour d'un voyage en Amazonie, il dénonce, je le cite, « les ambitions démesurées d'une humanité technologique et développée qui dénie aux peuples différents d'elles-mêmes le droit d'être considérés comme des humains à part entière ». Une humanité, poursuit-il, qui s'approprie des territoires et des ressources sans tenir compte des conséquences pour ceux qui y vivent déjà. Claude Lévi-Strauss en veut pour preuve l'extravagant projet de construction d'une route de plus de 4000 km qui doit traverser le continent sud-américain d'est en ouest pour relier la côte atlantique du Brésil aux frontières du Pérou. Un axe qui a pour nom la Transamazonienne, qui passe donc, comme son nom l'indique, au cœur de la forêt tropicale. Lorsqu'on survole l'Amazonie en avion, ce projet pharaonique prend tout son sens. Ou plutôt, il fait prendre conscience du désastre écologique à venir. En contrebas, en effet, on aperçoit le vert, dense, profond de la forêt primaire. Or, une large bande de boue jaunâtre la saigne par endroits. À la jumelle, on distingue sur ce tronçon des bulldozers et des pelleteuses qui dévorent l'épaisse muraille d'arbres et s'enfoncent chaque jour un peu plus au cœur de cette nature jusqu'ici sauvage et fragile. Dans leur sillage apparaissent d'obscures nappes de fumée qui s'échappent du sol. Par milliers, des paysans sont en train de brûler des centaines d'hectares afin d'en faire des terres cultivables. Un chiffre, un seul, permet de saisir l'ampleur de la catastrophe. chaque année en Amazonie, c'est une surface équivalente à celle du Portugal qui est rayée de la carte en tant que forêt. Décidé à la hâte par le nouveau gouvernement démocratique de Brasilia, ce projet de route entend combattre l'isolement des régions centrales du pays et favoriser le développement de l'agriculture. Mais pour Claude Lévi-Strauss, ce projet irraisonné autant qu'irraisonnable risque de détruire l'équilibre naturel. Et pire encore, il va provoquer la disparition des fragiles sociétés et groupes ethniques qui y vivent, les Indiens d'Amazonie.
C'est une forêt très très serrée, une forêt qui fait comme un mur vert. On voit rien à travers, on voit même pas le soleil quelquefois. On regarde vers le haut, on voit cette toiture verte. Ce sont des lianes partout. C'est très difficile à marcher là-dedans. C'est très humide, très chaud.
C'est la forêt tropicale.
La forêt tropicale, très dense.
Et ça représente une proportion de combien par rapport au reste du pays?
À peu près la quatrième partie de tout le Brésil. Même peut-être un peu plus.
Parmi ceux qui tentent d'approcher les Indiens, il y a l'ethnologue brésilienne Vilma Chiara Schulz, que vous venez d'entendre. Pionnière dans l'étude des populations indigènes du Brésil, elle se bat pour le respect du droit des groupes autochtones et pour la sauvegarde de la forêt amazonienne, plus importante réserve naturelle de la planète pour la faune et la flore. Malgré la création d'un parc national et d'une loi censée protéger leur existence, les Indiens du Brésil et leur mode de vie sont menacés. Ultime recours pour sauvegarder leurs traditions ancestrales, certaines tribus nomades sont contraintes d'éviter les bords du gigantesque fleuve Amazone. À leur place, les hommes venus de la ville s'installent et construisent maisons en béton, toits de zinc et autres infrastructures pour transporter bois, minerais et cargaisons en tout genre. Conséquence, pour aller au contact des Indiens, il faut à Vilma Chiara Schulz remonter très haut sur les affluents du fleuve, dans des endroits reculés, où la cueillette, la pêche et la chasse, fondement même de la vie des tribus, sont rendus difficiles par une nature devenue hostile. Ces migrations à répétition engendrent une diminution significative des populations d'Indiens d'Amazonie, comme en atteste en 1973 le rapport de la Fondation nationale des Indiens du Brésil, la FUNAI.
D'après les informations collectées par les équipes de la FUNAI sur le terrain, on recense entre 50 000 et 80 000 indigènes vivant dans des territoires éloignés des fleuves et de la savane. Ces derniers sont répartis en plus de 200 ethnies. Toujours d'après les chiffres dont nous disposons, la population des Indiens a été divisée par 10 depuis le début du siècle, et cette même population pourrait de nouveau être divisée par 2, voire par 3, d'ici l'an 2000.
Des engins de chantier qui engloutissent des pans de forêt entiers sur des dizaines de kilomètres. Des paysans et des grands propriétaires qui brûlent par milliers les arbres pour s'accaparer et cultiver la terre. À ce sombre tableau s'ajoute un phénomène nouveau lié à la découverte d'une ressource dont regorgeraient les sous-sols de l'Amazonie, l'or. Qu'ils soient explorateurs, trafiquants ou orpailleurs, ils viennent par centaines tenter leur chance chaque semaine dans la jungle, avec l'espoir de trouver le bon filon et, bien sûr, faire fortune. Mais comme toute industrie, l'orpaillage pollue et abîme les sols. Pour séparer l'or de la boue, en effet, les chercheurs ont recours à un poison qui tue la forêt, le mercure. Pour récupérer un kilo d'or, on estime qu'il faut déverser au moins un litre de cette substance qui s'infiltre ensuite dans les nappes phréatiques et qui rejoint les rivières, la même. Où à quelques kilomètres en aval, les Indiens et leur bétail prélèvent l'eau. C'est dans ce contexte qu'un jeune cinéaste belge va réaliser un documentaire inédit sur le combat d'une tribu indigène pour la sauvegarde de son territoire. Un film qui va par la même occasion montrer aux yeux du monde le péril qui plane sur la forêt amazonienne. Au printemps 73, dans la vallée du Rio Xingu, située dans le Mato Grosso, au centre du Brésil, l'ethnie des Indiens Kayapos vit au rythme de ses traditions. L'une des particularités de ces tribus, qui les distingue de beaucoup d'autres, c'est ce labret, disque de bois peint de façon cérémoniale, que les hommes adultes portent sous la lèvre inférieure. À l'origine, les différentes tribus Kayapo étaient nomades. Elles se déplaçaient en fonction des saisons, du gibier, se regroupaient par famille et s'alliaient lors de guerres pour conquérir de nouveaux territoires. Il était fréquent de les observer aux abords du fleuve Xingu, l'un des derniers affluents non pollués de l'Amazone. Parmi ceux qui les étudient, il y a l'ethnologue brésilien Eduardo Leroux.
C'est un groupe de 800 Indiens plus ou moins, de 0 à 90 ans d'âge, peut-être parfois un peu plus, parce que l'Indien ne sait pas vraiment son âge. On peut découvrir son âge d'après le nombre de générations qu'il a déjà procréées, quoi. Donc, je peux voir encore toute la responsabilité, l'intégrité de chaque parent, de chaque père de famille intact. Les soucis pour les ornements, les parures, la peinture corporelle. J'étais émerveillé pour voir la qualité des objets ethnographiques. Je puis constater de mes yeux encore l'état intact, comme si c'était à 300 ans, à 400 ans en arrière.
Seulement voilà, depuis quelques mois, l'équilibre de vie de cette communauté indigène se trouve menacé. À tout juste quelques kilomètres du campement résonnent des bruits inquiétants. Jusqu'ici, les Indiens Kayapos n'ont eu que très peu de contact avec le monde extérieur. Certains d'entre eux, comme l'un de leurs chefs de tribu, le cacique Raoni Metutirk, ont par le passé rencontré, aidé, guidé des explorateurs. Des expériences qui ont eu parfois des conséquences douloureuses. Sans s'en rendre compte, en effet, les étrangers ont transmis aux Indiens des maladies comme la grippe, la tuberculose ou la malaria. Des villages entiers ont été contaminés, puis décimés. De ces épisodes est née chez les Indiens une crainte et une détestation de l'homme blanc. Été 1973. Par une nuit pluvieuse, un jeune homme remonte les affluents du fleuve Amazon sur une petite pirogue. Il a 24 ans, il est belge, il s'appelle Jean-Pierre Dutilleux. Désireux de rencontrer les populations primitives qui vivent en Amazonie, il tente depuis plusieurs mois d'aller à leur contact. Ce soir, il a rendez-vous sur le territoire de la tribu des Kayapos. Tout autour du fleuve, tout est silencieux, comme endormi. Les rives, elles, demeurent sombres. Après plusieurs heures d'une navigation dangereuse entre les branches, les racines géantes et parfois contre le courant, Jean-Pierre Dutilleux et son guide arrivent à l'endroit convenu. Là, sur les rives enfumées par les vapeurs des pluies tropicales, à la lumière de quelques torches, les deux hommes distinguent des femmes, des enfants, mais surtout des guerriers de la tribu, armés de leurs arcs, de leurs flèches et de leurs massues. Tous les observent. Les Indiens ont été prévenus quelques jours auparavant de leur venue et ont accepté de les recevoir. Avec lui, Jean-Pierre Dutilleux tient entre ses mains sa petite caméra Beaulieu 16 mm emballée dans un vieux jean. Une sacoche avec des pellicules et un message à l'intention des chefs Kayapos. Des années après, le réalisateur revient sur cette rencontre.
Plusieurs centaines de personnes descendent lentement vers la berge. Je suis alors saisi par une étrange sensation à la fois d'extase et de terreur. Lorsque le canot touche enfin la berge, je me dresse face à cette tribu rassemblée dans le halo des torches. Avec leurs yeux brillants, leurs longs cheveux noirs, leur corps luisant d'une teinture sombre, leurs bouches déformées par des plateaux rouge sang, et dans leurs mains des sortes de massues en bois. Reprenant mon souffle, je me mets à lire le message écrit en phonétique que j'ai apporté avec moi. Je braque ma lampe de poche dessus et lis d'une voix ferme sans comprendre un traître mot. Sort alors du rang un Indien plus grand, plus fort, plus impressionnant encore que les autres. C'est Raoni.
La rencontre entre le chef Raoni et cet étrange visiteur venu de la ville est brutale. À un mètre, l'un en face de l'autre, deux mondes s'observent et se dévisagent. Mais une relation de confiance se noue entre le chef indien et son invité. Dans la foulée, Raoni accepte de laisser Jean-Pierre filmer dans le village. C'est un privilège exceptionnel. Très vite pourtant, le cinéaste rend compte que les Indiens le fuient, qu'ici, l'ambiance est à la tristesse et l'humeur à la résignation. Pour Pour lui faire comprendre les raisons de ce malaise, Raoni emmène Jean-Pierre Dutilleux aux frontières de la forêt. Là, dans un nuage de poussière et un bruit assourdissant, le jeune réalisateur aperçoit les bulldozers appartenant à des entreprises forestières ou minières. Oui, les machines s'attaquent aux arbres. Elles les démolissent et détruisent tout ce qui se trouve sur leur passage. Face à elles, les flèches des Indiens ne peuvent rien. Quelques mois plus tard, Jean-Pierre Dutilleux retourne voir Raoni dans son village. Le jeune réalisateur propose à celui qui est désormais devenu grand chef indien de tourner un film sur les conditions de vie des tribus Kayapos. Il s'agit d'alerter le monde entier du danger qui guette. Officiellement, la constitution brésilienne reconnaît aux Indiens des droits. Ils ont aussi une fondation pour les protéger, la FUNAI. Mais dans la pratique, les responsables politiques et les grands propriétaires terriens les considèrent comme des sous-hommes, des nuisibles. Et leurs revendications pour la protection de la forêt ne sont jamais prises en compte. Comme en témoignera plus tard le chef Raoni lors d'une interview accordée à TF1.
Porque o branco, ele não pensa direito, ele não pensa nós, eles estão pensando só para ele.
Le blanc ne pense pas comme nous, le blanc ne pense qu'à lui-même.
Eu, até hoje ainda, pensamos que o branco estava pensando que vai acabar nós, matar nós. Então,
il pense qu'aujourd'hui, toujours les blancs veulent leur mort.
Avec le documentaire de Jean-Pierre Dutilleux, intitulé tout simplement « Raoni », le monde découvre les visages et les habitudes de cette tribu indienne qui semble sortie tout droit d'un autre temps. Dans sa version anglaise, narrée par l'acteur américain Marlon Brando, lui-même très attaché au respect des droits des populations indigènes, le film connaît un grand succès outre-Atlantique. Présenté dans la foulée au Festival de Cannes et nominé aux Oscars en 79, s'il vous plaît, l'œuvre se présente comme un premier pas dans cette dénonciation de la voracité des Blancs. Au début des années 80, les machines du monde industriel continuent en effet de dévorer la forêt. Les tribus indiennes d'Amazonie sont au pied du mur. Leur territoire se réduit et comble de cette situation au cœur de leurs espaces de vie, l'État brésilien ambitionne de construire des barrages hydroélectriques. Certains groupes indigènes se lancent alors dans des opérations de sabotage ou des attaques meurtrières contre des hommes blancs. Des actes qui tournent souvent à leur défaveur, tant le rapport de force est ici disproportionné. De son côté, Jean-Pierre Dutilleux continue ses efforts pour tenter de promouvoir la cause et les revendications des Indiens. Il fait venir en Amazonie le journaliste et propriétaire du magazine Actuel, Jean-François Bizot. Le mois suivant, Raoni fera la une de ce même magazine. Ensuite, c'est un coup magistral que réussit Dutilleux. À la fin de l'année 87, il convainc le chanteur Sting de rencontrer le chef indien chez lui, dans la forêt, lors de sa prochaine tournée au Brésil. L'épisode fera date et la photo de la star du rock avec Raoni fait le tour du monde. À cela s'ajoute le message de Sting dans les médias.
Les raisons de mon combat, c'est mon ami Raoni, celui que vous voyez à côté de moi. C'est mon héros. Cela fait 30 ans qu'il se bagarre pour sauver la forêt. Il ne se bat pas seulement pour son peuple, pour ses enfants et ses petits-enfants, mais aussi pour mes enfants. La survie de la forêt amazonienne est importante pour le monde entier. Alors Raoni, c'est notre leader, le chef.
Quelques mois plus tard, lors d'un concert géant à Sao Paulo pour Amnesty International, Sting, encore lui, invite cette fois Raoni sur scène et profite de l'interlude entre deux chansons pour afficher son engagement aux côtés des Indiens. Ici au Brésil, on dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, lance la star du rock à une foule médusée. Puis le chanteur poursuit d'un ton grave, ce n'est pas vrai, ils existent ces prisonniers, et ces prisonniers, ce sont les Indiens. Dans un clip vidéo, cette fois diffusé dans le monde entier, Sting dénoncera par la suite le péril qui plane sur nous tous.
Voici la forêt en 1900, ici aujourd'hui, et ici dans 30 ans si ça continue. Les poumons de mort, mort, au Nouveau Sahara. La forêt brûle, la planète se réchauffe, le pire est à craindre.
Au cours des semaines qui vont suivre, Jean-Pierre Thuilleux se lance dans un pari fou. Faire venir Raoni en France, oui, pour qu'il témoigne de son combat et de l'urgence de sauver la forêt. Pour le réalisateur, les événements vont s'enchaîner d'une manière inespérée. C'est d'abord le président du Brésil en personne, José Sarney, qui délivre à Raoni les papiers d'identité. Puis, en France, ce sont le magazine Paris Match et la chaîne de télé TF1 qui proposent de consacrer plusieurs reportages au chef indien. TF1 insiste même pour l'accueillir sur son plateau pour un 20h avec Patrick Poivre d'Arvor, puis pour une émission de son programme Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault. En parallèle, des personnalités de la scène politique et culturelle acceptent de rencontrer Raoni lors de son passage dans la capitale. Tout est fin prêt lorsque le samedi 8 avril 1989, le vol Air France 096 en provenance de Rio se pose à l'aéroport de Roissy. À la guérite du poste de police de l'air et des frontières, l'agent en faction n'en croit pas ses yeux. En face de lui, un étrange voyageur au visage maquillé de noir, avec sur sa tête une coiffe de plumes colorées et au niveau de sa bouche un curieux plateau rond de couleur rouge qui lui déforme la lèvre inférieure. Voilà pour le portrait. Après quelques instants d'hésitation, le policier tamponne le passeport au nom de Raoni Metuktir. Le chef indien est officiellement reçu en France. Accompagné par Jean-Pierre Dutilleux, Raoni est accueilli par le journaliste Patrick Bahé de Paris Match. Ensuite, il s'engouffre dans une voiture qui file bientôt sur l'autoroute, puis sur le périphérique. Assis à l'arrière, Raoni reste silencieux. Il fume sa pipe et il observe. À peine a-t-il le temps d'apercevoir la tour Eiffel que le véhicule plonge déjà dans le tunnel de Saint-Cloud avant d'arriver en forêt de Rambouillet, où une maison a été mise à sa disposition, loin du tumulte de la ville. En quelques heures de vol, Raoni a dû faire un apprentissage accéléré du siècle et du monde dans lequel il débarque. Et, bien sûr, le choc des cultures, pour lui, c'est d'abord le choc du béton.
En marchant dans la forêt de Rambouillet, je m'interroge sur la nudité des arbres. Aucun d'eux n'a de feuilles. Des branches, petites et grandes, jonchent le sol. Jean-Pierre m'explique alors que, contrairement aux apparences, les arbres ne sont pas morts et que leurs feuilles repousseront au printemps. Je contemple cette forêt qui me semble si étrange et je pense aux arbres d'Amazonie. Des milliers d'entre eux disparaissent chaque jour et je sais qu'aucun ne reverdira à leur place au printemps.
La plus grande surprise de Raoni, racontera le rédacteur en chef adjoint du magazine Paris Match, Patrick Mahé, c'est sa rencontre avec la télé. On lui met entre les mains une télécommande. Il tente de l'apprivoiser et se lance dans un incroyable zapping, mélangeant les boutons de lumière, de couleurs et de sons, sans pouvoir maîtriser le volume qui, poussé à fond, le fait sursauter. Lorsque le calme revient, le chef indien découvre alors le visage de Gilux, qui anime ce soir-là Interglace. Le contraste est saisissant. Après 3 jours d'acclimatation, sous le regard bienveillant et avec l'aide de son ami Jean-Pierre Dutilleux, Raoni part pour les studios de TF1, rue Cognac-Jay. En cette soirée du 12 avril, le journal de 20h de la première chaîne commence. Assis face au présentateur, Patrick Poivre d'Arvor, l'Indien a revêtu ses habits, ses accessoires et son maquillage de chef de guerre. Il est prêt à parler aux Français.
Forget how fragile we are. Place maintenant à notre invité. Un invité pas comme les autres. Il s'appelle Raoni. On pense qu'il a 57 ans. C'est approximatif. Il n'en est pas sûr lui-même. Il vit dans la forêt amazonienne. Raoni, est-ce que vous savez que pour nous aussi, ça nous intéresse beaucoup l'Amazonie parce que cette forêt est le poumon du monde et qu'on a besoin de son oxygène. Est-ce que vous aviez pensé à cet aspect des choses?
Eu preciso também porque é por isso que eu venho aqui, para avisar para tudo muito. Nós vamos deixar onde tem mato, onde tem árvore. Não é só nós índios que vai acabar. O branco vai acabar tudo também.
Il dit que si nous continuons à détruire toutes les forêts, non seulement nous allons détruire les animaux, les rivières, etc. et les indiens même, mais tout le monde va mourir.
Et est-ce qu'il veut prévenir ses amis, les Indiens, qui eux n'ont jamais vu de blanc de leur vie, que les blancs peuvent être dangereux?
Mercredi 12 avril 1989, la France a rendez-vous pour la grand-messe du journal de 20h. Ce soir, sur TF1, le programme est exceptionnel. L'invité de Patrick Poivre d'Arvor, c'est le chef indien Raoni. Comme à son habitude, PPDA apparaît au générique entre sourire et gravité. Il annonce les titres. Puis la caméra se tourne vers son invité. Un homme, torse nu, visage noirci de cendres, auréolé de plumes bleues et rouges et dont la lèvre inférieure est distendue par un étrange objet de bois qui bouge au rythme de ses paroles. La caméra zoome en gros plan sur ce regard grave. Interrogé sur la situation de son peuple et sur son combat, le chef Raoni répond dans un mélange de langues portugaises et de dialectes cayapos. Assis à ses côtés, Jean-Pierre Dutilleux assure la traduction.
Dans la région du fleuve Singu, 3000 frères indiens vivent en paix avec la nature. Briser l'équilibre de la nature revient à briser la vie de tous mes frères. Et progressivement à tuer l'homme, tous les hommes, et l'essence même de l'homme, notre planète.
Au terme d'une vingtaine de minutes d'entretien, PPDA annonce que Raoni est également l'invité à 20h45 de l'émission Sacrée Soirée. Pour le chef indien et son traducteur, une folle course contre la montre commence. Car des studios de la première chaîne rue Cognac-G au plateau de l'émission situé derrière les buts de Chaumont, il y a tout Paris à traverser. Et il reste en moins d'un quart d'heure avant le début de l'émission. Alors, pour réussir un tel pari, la chaîne a sorti les grands moyens. S'est allongé sur le brancard d'une ambulance, gyrophare et toute sirène hurlante, escorté par des motards de la police, que Raoni va traverser la capitale à plus de 120 km/h. Après un rodéo automobile d'une dizaine de minutes dans les rues de la capitale, Raoni arrive sur le plateau de Jean-Pierre Foucault. Face au présentateur, le chef indien raconte alors l'histoire de son peuple, la destinée tragique de sa forêt et le sort cruel qui guette l'humanité égoïste et suicidaire. L'animateur propose ensuite au public de visionner trois cartes qui donnent l'ampleur du phénomène. Sur la première, on y voit le Brésil d'hier et sa forêt poumon. Sur la seconde, le Brésil de 1989, tacheté de jaune orangé à cause de la déforestation. Et enfin, sur la troisième, le Brésil de demain est transformé en désert. La soirée de TF1 est un succès. Le lendemain, un sondage révèle en effet que plus de 30% des Français ont entendu le message du chef indien. À cette victoire populaire, Jean-Pierre Dutilleux souhaite une victoire diplomatique. Depuis des semaines, son ami le journaliste Bernard Lenne multiplie les contacts auprès des personnalités de la scène politique française. Mais pour l'instant, la plupart des cabinets ministériels bottent en touche. En coulisses, une note confidentielle circule entre les conseillers du président Mitterrand. Selon des fonctionnaires du Quai d'Orsay, le Brésil pourrait interpréter toute rencontre officielle entre le chef Raoni et un représentant du gouvernement comme une ingérence dans ses affaires intérieures. Le ministre Roland Dumas est donc partisan de limiter l'exposition avec Raoni. Jeudi 13 avril 1989, le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, accepte pourtant de recevoir le chef indien et le chanteur Sting. Au bout d'une demi-heure d'entretien, il annonce à la surprise générale que le président de la République lui-même, François Mitterrand, va les recevoir. Présent aux côtés de Raoni, Jean-Pierre Dutilleux raconte.
Une grande porte s'est alors ouverte. Le président était là, face à nous. Il s'est approché, puis il nous a longuement serré la main. Ensuite, nous nous sommes assis pour discuter. François Mitterrand nous écoutait et semblait prendre notre démarche très au sérieux. Puis soudain, Raoni s'est levé. Il est venu se placer juste en face du président. Il a mis sa main sur le front de Mitterrand et, étonné, il a dit « Mais où sont passés vos cheveux ?» Cela a beaucoup amusé le président. Ce dernier a même accepté que Raoni lui mette sur la tête son couvre-chef en plume d'apparat.
Ainsi se termine la visite de Raoni à Paris. L'écho de sa rencontre avec François Mitterrand est planétaire. S'ensuit une escale express en Belgique, puis en Suisse, et enfin à Rome, aux côtés de Sting, décidément fidèle, et de Jean-Pierre Dutilleux, sans oublier une rencontre avec le pape. Les Brésiliens, très croyants et pratiquants, considèrent le souverain pontife au-dessus de leur président. La photo de Raoni avec Jean-Paul II est donc un boomerang diplomatique et spirituel qui revient en pleine face du gouvernement de Brasilia. Ensuite, tout s'accélère. Du roi d'Espagne au prince Charles, de Los Angeles à Tokyo en passant par Sydney, en l'espace de 60 jours, Raoni poursuit un tour du monde au rythme effréné. Il rencontre les principaux leaders d'opinion et surtout médiatise son combat. Les dons affluent pour sa fondation Rainforest et Raoni devient l'ambassadeur mondial de la défense de l'Amazonie. Quatre ans plus tard, en 1993, les Indiens d'Amazonie obtiennent une première victoire. Le gouvernement brésilien, sous pression de la communauté internationale et des associations de sauvegarde de l'environnement, accepte enfin de démarquer et délimiter les territoires indigènes du Brésil, ceux des Indiens Kayapos et les tribus de la région du Xingu. Brasilia crée alors la plus grande réserve de forêt tropicale de la planète. Voilà, les problèmes des Indiens sont-ils terminés ? L'Amazonie va-t-elle être préservée ? Onze ans après son voyage à Paris, au printemps 2000, le chef Raoni est de retour dans la capitale française, sur invitation cette fois et officielle du président de la République d'alors, Jacques Chirac. Face aux journalistes qui l'interrogent, Raoni dénonce les pratiques en cours dans la forêt, la multiplication du braconnage, la déforestation illégale et les orpaillages. Il évoque également la corruption qui gangrène la FUNAI, la Fondation des Indiens, et le ministère de l'écologie. Les paysans, explique Raoni, continuent à défricher les terres sauvages en toute impunité, l'État brésilien laisse faire. Une décennie après son tour du monde, le bilan que tire l'ancien chef indien est sévère, et il va s'aggraver au fil des ans. À la fin des années 2000, Raoni est obligé de reprendre les armes. contre l'État brésilien qui souhaite cette fois installer un barrage hydroélectrique géant sur le fleuve Xingu. Le lac des rétentions d'eau créé engloutirait plusieurs centaines d'hectares de forêt et obligerait les populations indigènes à abandonner leur village. Une catastrophe écologique autant qu'humaine. Le 2 février 2018, en pleine campagne pour l'élection présidentielle brésilienne, Raoni, le défenseur de la forêt amazonienne, voit surgir un nouvel ennemi en la présence du candidat populiste Jair Bolsonaro, celui qu'on surnomme déjà le Trump tropical, annonce à la télévision que s'il devait assumer les fonctions de chef d'État, l'Indien n'aurait plus un centimètre de terre au Brésil.
Prenez par exemple une réserve comme celle des Yanomami. Ce sont 9000 indigènes. Ici, nous sommes dans l'état de Rio. Eh bien, leur réserve fait deux fois la taille de l'état de Rio. N'allez pas me dire qu'il n'y a pas ici quelque chose d'anormal.
Élu président du Brésil en octobre 2018, Bolsonaro a décidé de dessaisir la Fondation Nationale pour les Indiens, la FUNAI, au profit du ministère de l'Agriculture, et il a lancé un vaste programme d'exploitation des terres isolées, provoquant bien sûr la colère et la crainte des populations indigènes. Aujourd'hui, 30 ans après la visite de Raoni à Paris, les menaces qui pèsent sur la forêt amazonienne et sur les Indiens sont plus fortes que jamais. Malgré les accords de Rio en 92, le protocole de Kyoto en 97, les accords de Paris pour le climat en 2015, le poumon vert de la planète risque à terme de disparaître. Et avec lui, c'est l'humanité tout entière qui aura du mal à respirer.
Tardei, mas cheguei enfim. Pra cada Deus um nó, cada conta o fio do rosário que eu vim banhar pra lhe dar. Tardei, tardei, tardei. Só na volta eu vi qual senda me levou, qual me trouxe aqui pra encontrar você. Onde está meu lugar? Desceu pelo rio da terra pro mar, um fio de prata que me leva. Tardei, 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 que na vinda eu quis pela primeira vez nunca mais parti esperar você, o meu lugar. Onde está? Desceu pelo rio da terra pro mar, um fio de prata que me leva.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, un Indien dans la ville, la visite du chef indien Raoni à Paris en 1989. Notre invité, Valérie Cabanès, en duplex et en direct de Bastia dans les studios de France Bleu RCFM. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste international, très impliqué dans la défense des droits des peuples autochtones et la reconnaissance des droits de la nature. Plus précisément, vous conseillez l'initiative des Nations Unies Harmony with Nature. Vous êtes membre du conseil de direction de Global Alliance for the Rights of the Nature et cofondatrice de l'ONG Notre Affaire à Tous. Votre dernier livre, Homo Natura, en harmonie avec le vivant, c'est son titre donc, est paru en 2017 chez Buchet-Chastel. Alors nous venons d'entendre ce récit autour de Raoni et ses problèmes très graves qui sont au cœur de notre actualité politique, économique, écologique. On l'a vu au G7, les déclarations des chefs d'État sur la planète, les feux qui dévorent l'Amazonie, les provocations de Jair Bolsonaro, le président brésilien. Que se passe-t-il réellement en Amazonie, mais aussi dans le monde? Est-ce que les forêts brûlent ailleurs, et toujours, et beaucoup trop?
Oui, c'est vrai que je vous ai écouté pendant ces 40 minutes... On peut se sentir un peu déprimé, mais en même temps, c'est une réalité qu'il faut qu'on regarde en face. Je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on sorte du déni, que chacun comprenne qu'il faut chercher vraiment des solutions pour arrêter cette destruction, en particulier, oui, des forêts tropicales, parce qu'il n'y a pas que l'Amazonie, il y a aussi la forêt indonésienne, la forêt de la République démocratique du Congo. C'est une espèce de ceinture verte autour de la Terre, qui permet de réguler l'oxygène, qui permet de réguler le cycle des pluies. C'est un peu, si vous voulez, notre ceinture de sécurité qu'on est en train d'abîmer. Et ce qui se passe au Brésil est une vieille histoire. Bien évidemment, et je suis la première à le dire, depuis l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, les choses s'accélèrent. Vous savez, en 31 jours, cette année, ont été détruits la moitié de ce qui a été détruit en 8 ans sous Lula, de 2004 à 2012.
Et le chiffre est éloquent.
Ça avait été, voilà, ça avait été... donc on est dans une situation qui est devenue extrême, mais qui existe depuis très longtemps.
Alors, on est bien d'accord, enfin, il me semble logique que la solution, elle doit passer, ne peut passer que par une gouvernance mondiale, puisque le problème est mondial. Êtes-vous d'accord avec cette approche?
Alors, bien évidemment que je suis d'accord. Le problème, c'est qu'en droit, si vous voulez, ce que moi j'appelle les communs naturels, c'est-à-dire ces grands écosystèmes qui sont vitaux pour le maintien de la vie sur Terre et donc pour la pérennité de l'humanité, que sont les forêts, que sont les océans, que sont les pôles, ces communs naturels sont considérés aujourd'hui comme 100 mètres, mais ils y sont exploitables par tous. C'est ce qu'on appelle des res nullius. Et je crois qu'effectivement, il faut aller vers un droit qui reconnaisse ces communs naturels comme des sujets de droit et qui ait la possibilité de défendre leur rôle, de défendre leur droit à exister et à jouer leur rôle dans la communauté de vie. Donc, il y a un vrai débat qui s'oppose, bien évidemment, je dirais, à la pierre angulaire du droit international, qui reste aujourd'hui le principe de souveraineté nationale.
Alors, peut-être que l'espoir est dans la communauté internationale, peut-être encore faut-il s'en donner les moyens politiques. L'espoir est peut-être aussi, et certainement d'ailleurs, hors du champ politique, entre les mains des jeunes, à travers le monde, parce que c'est leur monde, c'est celui de l'alerte écologique, c'est celui de la prise de conscience et du combat quotidien pour préserver l'environnement. C'est notamment la génération Y, les 20-35 ans. Notre reporter, Anaëlle Verzo, a voulu en savoir plus. Bonjour, Anaëlle.
Bonjour.
Vous avez rencontré Alexia Soyeux. C'est une jeune femme de la génération Y, justement, elle a 33 ans. Et alors, elle nous intéresse sur le fond et aussi parce qu'elle a lancé un site internet de podcast qu'elle autoproduit sur l'écologie.
Ça s'appelle Présage et ce sont des interviews de personnes qui ont réfléchi, travaillé sur l'écologie. Et son but, c'est de donner des clés.
Issue de la classe moyenne parisienne, rien ne l'a prédestinée, a priori, me semble-t-il, à s'engager à ce point.
Non, elle était même partie pour une carrière dans l'alimentaire, la guimauve plus exactement. Et avec le sourire, elle raconte être passée de la guimauve à l'effondrement. Alors Alexia, notre émission est consacrée à l'Amazonie. L'agence spatiale brésilienne a répertorié 73 000 feux dans la forêt amazonienne depuis le début de l'année. C'est une hausse de 84% par rapport à la même période l'année dernière. Au total, la zone déforestée en Amazonie représente la surface de la France. C'est 20% de notre oxygène. En cause, il y aurait la déforestation et le changement climatique. Comment, d'après vous, éviter le dérèglement de la forêt amazonienne ?
Je pense qu'il y a tout un faisceau de raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Les entreprises, les décideurs, c'est une même culture dominante qui détruit les ressources, qui oppresse les personnes. Tout ça est lié et je pense que c'est important qu'il y ait une vision vraiment systémique des choses qui se diffusent au-delà de simplement la partie juste climatique du problème. Finalement, je pense que le focus sur le climat empêche de voir que les problématiques sont beaucoup plus larges que ça, quoi.
Ce qu'on comprend à travers ce que vous dites, c'est qu'en tout cas, les solutions sont politiques, au sens global du mot politique. C'est pas juste en faisant le tri des déchets et c'est ça et en mangeant bio qu'on y arrivera.
Faire sa part, c'est important, mais les combats sont très collectifs et politiques et on a un problème de définition des mots. En fait, quand on parle d'écologie, tout le monde ne parle pas du tout de la même chose, quoi. Il y a d'un côté une écologie industrielle qui finalement n'est que le prolongement de notre système actuel et qui nous promet que demain on va pouvoir vivre de la même façon, mais tout en ayant verdi l'ensemble de la société.
Ça, c'est pas votre idée, hein, je
sens. Ça, c'est pas mon idée. Non, je pense que voilà, c'est une illusion totale. Et à l'autre bout, il y a une écologie beaucoup plus au sens vraiment complet et plein du terme, et qui englobe du coup les problématiques et sociales et environnementales. Il faut arrêter ce système extractiviste, productiviste, industriel, qui transforme tout en ressources, puis en déchets, très rapidement, quoi.
Et Alexia, vous vous souvenez forcément de Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, qui démissionne en disant « Le problème, c'est qu'on doit se confronter au poids des lobbies. » Il dit ça, c'est insupportable. Est-ce que, selon vous, il y a un problème de courage politique face aux lobbies ? Comment est-ce qu'on fait politiquement pour agir face aux lobbies ?
Ouais, je pense qu'il y a un problème de courage. Il y a un manque d'audace politique. Et puis, j'ai l'impression que le pouvoir pervertit les gens assez vite, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être aller vers plus de démocratie directe, des gens vraiment représentatifs, quoi.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui ont envie d'agir, un peu comme vous, mais qui se sentent inutiles, qui disent « Oui, je vois tout ce qui se passe, mais à mon petit niveau, je peux rien faire ».
Je pense que l'engagement, il est évidemment nécessaire. Il faut se mobiliser massivement, mais c'est pas avec des marches pour le climat ou des sittings devant des institutions qu'on va faire avancer les choses, visiblement. Donc, moi, mes réflexions du moment, elles me poussent à penser que la situation va se tendre à un point que il va falloir être beaucoup plus radicaux et peut-être passer à d'autres types d'actions, de blocage, de sabotage, que sais-je. Et je pense que le système en place est assez fort pour nous faire imaginer qu'il n'y a pas d'alternative. Et ça, c'est très toxique, quoi, comme idée. J'essaie de me rappeler aussi que l'histoire n'est pas écrite d'avance et qu'on n'est quand même pas à l'abri de basculements positifs. Bon, après, rien dans la situation actuelle ne nous invite vraiment à l'optimisme.
Mais, vous n'êtes pas naïve et...
Non, voilà, mais au quotidien, je suis enthousiaste.
Et combative.
Ouais, c'est ça. Combative, on va dire.
Valérie Cabanès, c'est aux arbres citoyens, hein. Ça passe par l'activisme, le discours d'Alexia, peut-être même quelques formes de désobéissance civile. Est-ce que c'est une voie, l'activisme, qui est souhaitable pour vous dans ce combat-là ?
Oui, simplement j'ai choisi la voie du droit et j'encourage effectivement les jeunes au sein de notre affaire à tous à nous rejoindre et à nous accompagner. Je vais vous donner un exemple très concret. Je dis souvent que le droit est le dernier rempart avant la violence et Alexia a raison de dire qu'on est arrivé à un point qui risque d'être un point de rupture et qu'il faut donc tout faire pour inventer de nouveaux modes de gouvernance et inventer de nouvelles règles du vivre ensemble pour pouvoir justement continuer parce qu'on ne le fait pas, mais en tout cas respecter les limites de la planète, celles qu'elle nous offre et qui nous permettent effectivement de vivre dignement. Donc on va chercher en fait le courage des juges quand on n'obtient pas d'avancées politiques par rapport aux propositions que l'on peut faire en ce qui concerne la reconnaissance par exemple du crime d'écocide, c'est-à-dire un crime idéalement international qui reconnaisse que quand on porte atteinte gravement au commun naturel ou à des cycles écologiques qui maintiennent le vivant, c'est une forme de crime international.
Et ça veut dire sanction.
Grave.
Et ça veut dire sanction dès lors qu'il a droit.
Et ça veut dire sanction. Voilà. À partir du moment où il y a sanction, il y a donc dissuasion et il y a une possibilité, en particulier en reconnaissant justement les droits des écosystèmes à exister et donc leur possibilité de défendre leur droit à exister en justice. Il y a une possibilité de mettre en place un droit qui devient préventif. En France, on a par exemple le préjudice écologique, qui est une avancée certaine, juridique, mais qui ne peut intervenir qu'après la catastrophe. Et là, étant donné l'état de la planète, il faut absolument poser des contraintes et donner la possibilité à des écosystèmes d'être préservés en amont de projets industriels. Vous savez, par exemple, en Colombie, puisqu'on parlait des jeunes, c'est 25 jeunes colombiens de 7 à 21 ans qui ont saisi la Cour suprême colombienne en avril 2018 en leur disant, écoutez, on a constaté un bond du déboisement de l'Amazonie en Colombie, de 46% en un an. C'est une véritable menace faite à nos droits en tant que génération future, puisque cela va contribuer à emballer le changement climatique. Et la Cour leur a donné raison. D'une part, elle a reconnu leur droit à un environnement sain et a obligé le gouvernement à mettre en place un plan d'arrêt du déboisement. Et ensuite, elle s'est dit, mais en fait, l'Amazonie étant un commun naturel dont tout le monde a besoin, reconnaissons l'Amazonie colombienne comme une entité juridique, un sujet de droit qui puisse défendre son droit à exister en justice. Alors, et là, pour moi, il y a une clé.
Il y a une clé, et j'ai retenu que c'est une initiative des jeunes, effectivement. Le combat écologique a quelque chose de révolutionnaire dès lors qu'il doit déboucher sur un autre paradigme, dès lors qu'il va dans le progrès, dans le sens du mouvement. Et puis, il y a l'autre sens, et le sens réactionnaire. Et le 7 septembre dernier, Maxiel dos Santos, un Brésilien qui œuvrait pour la défense des peuples autochtones d'Amazonie, était tué par balle. Il travaillait pour une association pour la protection des droits des peuples autochtones dans le territoire du Vale do Javari, réputé pour être la cible de braconnage, d'orpaillage, d'exploitation illégale du bois. Je veux dire, est-ce qu'avec l'arrivée de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil, les Indiens d'Amazonie sont-ils en danger ?
Alors, ils sont en danger depuis longtemps, mais c'est vrai que depuis son arrivée, on a, d'une part, enfin, si vous voulez, très concrètement, ce qu'a fait Jair Bolsonaro à son arrivée, c'est créer un climat d'impunité pour les propriétaires terriens, pour les exploitants de bois, d'or, et en agissant directement sur des lois ou sur des organismes qui avaient à charge de contrôler ce qui se passait en Amazonie, et en arrêtant aussi le principe de la démarcation des terres indigènes, qui est un droit constitutionnel qui permettait aux peuples autochtones d'Amazonie de préserver leur territoire. Ce qui se passe donc, c'est que il y a des personnes qui aujourd'hui envahissent les territoires autochtones de façon très violente. Mais on a vu ce fonctionnement-là, par exemple avec les Guarani, qui ont été littéralement chassés de chez eux, qui vivent aujourd'hui dans des camps ou en bord de route, avec des taux de suicide extraordinaires, parce que ils sont leurs territoires sont aujourd'hui la proie véritablement d'une sorte de colonisation agricole et de colonisation qui est en lien avec le pouvoir complètement.
Donc Valérie Cabanès, je suis vraiment désolé de décourter cette conversation passionnante, mais nous n'avons pas plus de temps que ce qu'on nous accorde. Il est presque 16 heures. J'ai bien retenu que l'axe, pour vous en tout cas et pour beaucoup d'autres, c'est le droit. Hein, c'est le droit international, le droit qui protège, qui donne des droits et qui sanctionne quand il le faut. Merci infiniment Valérie Cabanès. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la forêt amazonienne, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter également pour toute information complémentaire à notre émission et, si le cœur vous en dit, à vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Maher. À suivre, Antoine Decaune, pop, pop, pop. Bonjour, cher Antoine.
Bonjour,
au
Fabrice.
Programme.
Fabrice, je suis sûr que vous aimez Fedot.
Ah bah oui, alors vraiment, il est très sincèrement.
Oui, je suis sûr.
Et je connais bien en plus.
Adoré la dame de chez Maxime, qui vient de se monter avec Michel Lescaut, notre invité. Et nous recevrons aussi Léna Blum, un top modèle, icône et désormais actrice transgenre, pour un très beau film qui a pour nom Port Authority.
Beau programme, merci, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.